Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales, soit cocasses, soit dégueulasses, et parfois les deux. Nous ne sommes pas dans le floodcast et pourtant je vais vous poser une question qui pourrait y figurer. Vous allez dans les toilettes publiques ? Ou genre vous êtes capable de vous retenir pendant des heures juste parce que vous ne pouvez pas vous soulager ailleurs que chez vous ? Personnellement, ça ne me dérange pas d'aller dans les toilettes publiques. Ce qui m'effraie le plus, c'est dans l'état que je vais les trouver en arrivant. J'aurais peut-être dû vous préciser qu'on allait parler de pisse aujourd'hui, surtout si vous êtes en train de manger. En tout cas, si vous faites partie de ces gens qui ne supportent pas l'idée de se soulager en dehors de leur trône habituel, vous souffrez peut-être de parurésie, un syndrome qu'on connaît plutôt sous le nom de vessie timide. La parurésie, plus précisément, qualifie le fait de ne pas parvenir à uriner dans des toilettes publiques lorsque d'autres personnes sont présentes à proximité. Et en fait, cela ne concerne pas que les toilettes publiques. Cela peut aussi concerner des toilettes privées, par exemple si tout le monde est à table dans la salle à manger et que, pas de chance, la porte des toilettes donne en plein milieu de cette pièce. L'urophobie peut aussi être déclenchée lorsqu'on doit uriner dans un contexte de contrainte, c'est-à-dire si on doit se dépêcher ou, plus particulièrement pour les enfants, on les oblige à aller aux toilettes à un instant T. Juste avant de faire un long trajet en voiture par exemple. On estime qu'environ 10% de la population serait touchée, mais c'est une estimation vague puisqu'il est tout de même rare que le sujet vienne naturellement dans la conversation. On rapproche ce trouble des phobies sociales. En effet, ce n'est pas le fait d'uriner en dehors de chez soi qui pose problème, mais le fait de le faire à proximité d'autres personnes. Et ce trouble touche plus souvent les hommes que les femmes. Pourquoi ? Parce que dans les toilettes publiques, les femmes ont un minimum d'intimité dans des cabines fermées, tandis que les hommes doivent utiliser des urinoirs qui, le plus souvent, ne sont pas vraiment camouflés de la vue d'autrui. Et cette phobie ne s'arrange vraiment pas lorsqu'un scientifique jette un coup d'œil par-dessus votre épaule pour vous chronométrer pendant que vous pissez. Laissez-moi vous parler de Dennis Middlemist.
One man crazy, three very sane spectators.
Dennis Middlemist, chercheur à l'université de l'Oklahoma, accompagné d'Eric Knowles de l'université d'Ohio et de Charles Mather de l'université du Wisconsin, se sont demandé si on mettait plus de temps à uriner quand quelqu'un se tenait un peu trop près de nous dans l'urinoir. J'ai envie de dire qu'il n'y avait pas forcément besoin d'une étude scientifique pour répondre à la question, enfin bon, on m'a pas demandé mon avis, et puis de toute façon, je vais pas dans les urinoirs. L'hypothèse selon laquelle les invasions de l'espace personnel produisent de l'excitation a été étudiée dans une expérience sur le terrain. Alors calmez-vous, quand on parle d'excitation, on ne parle pas d'excitation sexuelle, mais d'excitation au sens scientifique, de celui d'un stimuli engendrant une réaction. Les toilettes pour hommes offraient un cadre où les normes d'intimité étaient saillantes, où des invasions de l'espace personnel pouvaient se produire dans le cas d'hommes urinant, où la possibilité de réponse compensatoire à l'invasion était minime et où l'excitation induite par la proximité pouvait être mesurée. La recherche sur la miction indique que les facteurs de stress sociaux inhibent la relaxation du sphincter urétral externe, ce qui retarderait le début de la miction, et qu'ils augmentent la pression intravésicale, ce qui raccourcirait la durée de la miction une fois commencée. Autrement dit, on met plus de temps pour commencer à pisser et le pipi est raccourci. 60 utilisateurs de toilettes ont été assignés au hasard à l'un des trois niveaux de distance interpersonnelle et leurs temps de miction ont été enregistrés. Dans des toilettes à trois urinoirs, un complice se tenait immédiatement à côté du sujet alors qu'un urinoir avait été enlevé ou était absent. Dans l'étude des relations entre personnes et environnement, le concept d'espace personnel a été postulé comme une variable qui, en partie, détermine la façon dont les gens réagissent à leur environnement social et physique. Sommer, en 1969, a défini l'espace personnel comme, je cite, « la zone avec des frontières invisibles entourant le corps d'une personne dans laquelle les intrus ne peuvent pas entrer ». Les enquêtes sur les phénomènes d'espace personnel suggèrent que les individus cherchent à maintenir des distances interpersonnelles psychologiquement confortables. Si une invasion de l'espace personnel a lieu, les individus s'éloigneront des autres et rétabliront les limites de l'espace personnel ou s'engageront dans des comportements compensatoires qui minimisent la proximité. D'autres résultats suggèrent que les individus éviteront d'envahir l'espace personnel des autres ou s'engageront dans des gestes de soumission ou des excuses verbalisées pour minimiser l'impact de l'invasion. Bref, nous autres êtres humains, on aime bien avoir une bulle invisible et protectrice autour de nous, et si elle est brisée, on se sent très inconfortable et on va mettre en place des mécanismes pour recréer de la distance. Bien que ces réponses comportementales liées aux invasions de l'espace personnel aient été documentées et décrites, il y a eu peu d'enquêtes sur les raisons pour lesquelles ces réponses se produisent. Evans et Howard, en 1973, ont conclu que, je cite, « nous ne comprenons pas encore complètement toutes les variables qui sont pertinentes pour le comportement de l'espace personnel et nous sommes encore plus loin d'être en mesure d'expliquer pourquoi et comment l'espace personnel opère pour les êtres humains ». La théorie la plus courante est que l'excitation émotionnelle est une variable importante intervenant entre l'espace personnel et les réponses comportementales à l'invasion de l'espace personnel. Evans, Howard et Sommer font partie de ceux qui ont suggéré que les invasions de l'espace personnel sont stressantes, augmentent l'excitation et l'inconfort, et que c'est cette excitation qui produit les réponses comportementales. Ces réponses comportementales se produisent parce qu'elles réduisent l'excitation causée par l'invasion de l'espace personnel. Bien qu'il existe une relation claire entre les invasions de l'espace personnel et les réponses comportementales aux invasions, il existe peu de preuves sans ambiguïté que l'excitation joue un rôle, et encore moins un rôle médiateur, dans cette relation. Diverses données suggèrent que les sujets humains rapportent de l'inconfort et des sentiments négatifs à la suite d'invasions d'espaces personnels ou de conditions de surpeuplement, mais ces états peuvent avoir été des facteurs autres que l'excitation. Plusieurs auteurs ont tenté d'obtenir des indications plus directes de l'excitation. Efran et Shane, en 1974, ont tenté de mesurer les modifications de l'activité cardiovasculaire à la suite d'invasions. Et Dabbs, en 1971, a tenté d'obtenir des mesures de la transpiration palmaire dans des conditions de surpeuplement. Dans les deux cas, les résultats n'étaient pas concluants. McBride, King et James, en 1966, ont mesuré les réponses galvaniques cutanées des sujets lorsqu'ils étaient approchés à différentes distances, sous différents angles et par des expérimentateurs masculins et féminins. Ils ont constaté des diminutions plus importantes de la résistance cutanée avec des approches plus rapprochées, avec des approches frontales plutôt que latérales et avec des expérimentateurs de sexe opposé. Bien que cette étude soit souvent citée comme fournissant l'indication la plus directe que les invasions de l'espace personnel produisent de l'excitation, elle n'est pas non plus concluante, du moins en elle-même. Les sujets ont été instrumentalisés, participant à une expérience et conscients de la dimension manipulée, ce qui peut avoir rendu leur comportement et leur réponse peu naturelles. Comme alternative au laboratoire, les toilettes pour hommes offrent un cadre où les violations de l'espace personnel peuvent se produire de manière naturelle, mais suffisamment standardisée. Bien que Kira en 1970 ait souligné que l'utilisation de la salle de bain suscite des préoccupations d'intimité chez les membres de la classe moyenne, les installations publiques ne permettent pas une intimité complète, en particulier dans le cas des hommes qui urinent. Les urinoirs sont ouverts et placés côte à côte, de sorte que, dans des conditions de surpeuplement, les hommes se tiennent côte à côte. Contrairement à d'autres contextes, y compris en laboratoire, ces intrusions dans l'espace personnel dans les toilettes sont peu perturbées par les réponses compensatoires. Les sujets ne peuvent pas s'éloigner, changer l'orientation du corps, utiliser les mains et les bras comme tampons interpersonnels, réduire le contact visuel, au risque d'en foutre partout, et c'est dégueulasse. De plus, la recherche sur la miction suggère qu'il s'agit d'un processus sensible à l'excitation. Au début de la miction, les muscles de la vessie se contractent, augmentant la pression intravésicale et expulsant l'urine de la vessie. Dans le même temps, les deux sphincters de l'urètre se détendent, en particulier le sphincter externe, permettant à l'urine de s'écouler. Je suis sûre que vous ne vous étiez jamais demandé comment techniquement ça se passait là-dedans. Eh ben de rien. Les facteurs de stress sociaux semblent affecter ces deux mécanismes de miction. Les relations entre l'excitation sociale et la miction suggèrent que si un individu ayant l'intention de faire pipi était soumis à un facteur de stress, le début de la miction serait retardé en raison d'une réduction du degré de relaxation du sphincter externe, tandis que la durée du flux urinaire, le jet comme on l'appelle dans le jargon, une fois commencé, serait raccourcie en raison de l'augmentation de la pression intravésiculaire. Si les invasions de l'espace personnel produisent une excitation, alors les sujets se tenant les plus proches des autres aux urinoirs des toilettes montreraient des augmentations du délai d'apparition de la miction et des diminutions de la persistance de la miction. En gros, on met plus de temps à pisser pour en pisser moins. En raison de la nouveauté de ces hypothèses, une étude pilote a d'abord été entreprise pour déterminer si une relation entre la distance interpersonnelle et les temps de miction pouvait être observée. Et c'est là que commence le moment gênant pour les gens qui voulaient juste aller se soulager. Une observation sur le terrain menée dans les toilettes pour hommes d'une université de l'ouest des États-Unis a fourni des preuves d'une corrélation entre la distance interpersonnelle et les temps de miction. Les hommes entrant dans les toilettes pour uriner étaient autorisés à choisir un urinoir. Les données ont été enregistrées pour 48 sujets. Un utilisateur était inclus comme sujet si le degré de distance interpersonnelle entre lui et l'utilisateur le plus proche restait constant pendant toute la durée de sa miction. Les toilettes contenaient deux rangées de 5 urinoirs. Un observateur était posté à côté du lavabo et semblait se débarbouiller. Lorsqu'un sujet potentiel entre dans la pièce et se dirige vers un urinoir, l'observateur enregistre l'urinoir sélectionné et le placement du prochain utilisateur le plus proche. Il a également noté et chronométré le délai de miction, c'est-à-dire le temps entre le moment où un sujet a ouvert sa braguette et le début de la miction. Et il a aussi chronométré la durée de la miction, c'est-à-dire le temps entre le début du jet et la dernière goutte. Sur les 48 sujets enregistrés, aucun n'a sélectionné un urinoir immédiatement adjacent à un autre utilisateur. 23 étaient séparés par un urinoir de l'utilisateur le plus proche, 16 étaient séparés par deux urinoirs et 9 étaient séparés par trois urinoirs ou plus. Le fait qu'aucun sujet n'ait été observé en train de choisir un urinoir adjacent peut refléter un évitement actif de la distance interpersonnelle la plus proche. Même avec cette plage restreinte de distance interpersonnelle, des corrélations significatives ont été trouvées pour les deux mesures. Le retard de miction a montré une corrélation négative avec les trois niveaux de distance interpersonnelle. Les sujets se tenant à un urinoir de distance avaient un retard moyen de 7,9 secondes. Les sujets à deux urinoirs de distance avaient un retard de 5,9 secondes. Et les sujets à trois urinoirs de distance ou plus avaient un retard de 5,7 secondes. La persistance de la miction a montré une relation positive avec les trois niveaux de distance interpersonnelle. La persistance moyenne était de 19 secondes avec un urinoir de distance, 24,4 secondes avec deux urinoirs de distance et 32 secondes avec trois urinoirs de distance ou plus. Néanmoins, cette étude n'était qu'une étude pilote qui a encouragé nos chercheurs à réitérer l'expérience, mais dans un environnement plus contrôlé. Dans une expérience sur le terrain menée dans des toilettes pour hommes dans une université du Midwest américain, les sujets ont été assignés au hasard à l'un des trois niveaux de distance interpersonnelle. Les hommes qui entraient dans des toilettes à trois urinoirs pour uriner étaient obligés d'utiliser l'urinoir le plus à gauche. Un complice a été placé immédiatement à côté du sujet, un urinoir a été retiré ou était absent des toilettes. Un observateur planqué dans une cabine de toilette a chronométré le retard et la persistance de la miction. Des données ont été recueillies sur 60 utilisateurs des toilettes pour hommes. Un utilisateur était inclus en tant que sujet si aucun autre utilisateur, en dehors du complice, n'était présent lors de sa miction. Si quelqu'un d'autre était présent ou entré pendant la miction, l'utilisateur n'était pas compté. Les conditions ont été assignées au hasard et préparées avant que le sujet n'entre dans les toilettes. Les sujets n'étaient pas informés qu'ils avaient participé à une expérience. et les résultats de cette seconde étude ont confirmé les résultats de l'étude pilote. Les variations de la distance interpersonnelle dans les toilettes semblaient être liées de manière systématique aux variations des temps de miction. Le modèle de résultat soutient l'hypothèse selon laquelle l'excitation augmente avec la diminution de la distance interpersonnelle. Le modèle d'excitation des invasions de l'espace personnel propose que les distances interpersonnelles rapprochées sont interpersonnellement stressantes, augmentant l'excitation et l'inconfort, et que c'est cette excitation qui produit des réponses comportementales aux invasions. Alors, est-ce que tout ceci était bien nécessaire ? Eh bien, comme je le disais au début de cet épisode, on n'a pas attendu cette étude pour savoir que l'être humain apprécie assez peu de pisser en public. Bon, maintenant c'est le moment où je dois engager la conversation avec le public pour avoir un taux d'engagement. Qu'est-ce que je vais dire avec ça, moi ? Tag un soupeur en commentaire ? Pas terrible, ça. Cite les toilettes publiques les plus dégueulasses que tu connaisses ? Non, je crois que j'ai pas envie de voir ça. Bah, je sais pas, chronométrez-vous si ça vous fait plaisir, mais par pitié, ne partagez pas le résultat. Par contre, ce que vous pouvez partager, c'est ce podcast. Oh là, je deviens douée pour les transitions, moi. Plus il y a d'auditeurs et plus ça m'encourage à ne pas sortir les épisodes avec 2 semaines de retard. Allez, ça vaudra comme des excuses, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et pourquoi pas à me proposer des sujets à traiter. Et puis laissez les étoiles que votre père a volées dans le ciel pour les mettre sur Apple Podcasts. Et wow, il est vraiment temps que cet épisode se termine. On se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode, ni éthique ni responsable, de la saison.